France Inter, le 13-14.
Le vif de l'histoire, Jean Lebrun, dernière d'une série de chroniques consacrées aux élections après le vote comme rite républicain menacé, après le canton difficile à identifier. Comment éviter la fraude électorale? Alors commençons, Jean, par la liste des margements, celle que l'on signe après avoir glissé son bulletin dans l'urne.
Oui, alors je raconte pour ceux qui ont désappris ou ceux qui n'ont pas encore appris. Ouais. Hein. Donc c'est au fond du bureau, quelque chose comme l'arche sainte. Enfin, l'arche sainte, c'est l'urne. Et à côté, la liste des margements tenue par le président ou la présidente et ses assesseurs. Le président, c'est la petite reine d'un jour qui, en dépit des apparences d'hier, n'a pas été un jour ordinaire. Du petit matin au soir, le président a surveillé sa liste d'émargements, se rengorgeant quand elle se remplissait un peu et se désespérant à l'heure de la fermeture. Alors, chaque électeur, souvenez-vous, a, face à son nom sur la liste, a posé sa signature, car il faut maintenant signer la liste, et pas au crayon mine effaçable. Ça peut vous permettre de voir si quelqu'un a voté à votre place au premier tour alors que vous étiez resté chez vous. La liste d'émargement, réplique de la liste électorale, doit rester pure de toute tâche.
Mais c'est avant qu'on a pu bourrer les listes ?
Alors, votre inscription sur la liste indique un numéro d'ordre dans le bureau. Votre nom, vos prénoms, votre date de naissance. Et vous avez dû justifier d'une domiciliation dans le périmètre du bureau. Mais oui, certaines domiciliations, vous avez raison, sont fictives. Les candidats peuvent ainsi créer de faux électeurs. On se souvient peut-être d'un dessin du regretté Pétillon, figurant un couple parvenant place du Panthéon à Paris. Et l'homme disait à sa femme, pas le quartier, il n'a pas changé depuis les dernières élections. Le 5e arrondissement de la capitale a longtemps eu la fâcheuse réputation d'abriter des électeurs qui n'y venaient que les jours de scrutin. Le reste du temps, ils habitaient une entrée de garage ou une baraque disparue d'un trottoir, ou bien encore carrément la mairie. Ces faux électeurs devaient évidemment être surveillés comme le lait sur le feu quand leur était envoyée leur carte d'électeur et le matériel d'information électorale. Heureusement, ce genre de courrier n'est plus bien distribué aujourd'hui. Il ne revient donc pas à l'envoyeur.
Aux faux électeurs.
Alors, Pétillon a été aussi l'auteur de la fameuse enquête corse. De nombreux villages de l'île ne dédaignaient pas d'accueillir sur leur liste des personnes déjà inscrites ailleurs ou fâcheusement décédées ou encore des groupes d'électeurs quand c'était échangé avec une autre localité. Une refonte des listes d'une grande ampleur a été opérée en Corse depuis le début des années 90 et la Corse aujourd'hui semble se singulariser par son fort taux de participation. Voilà une leçon. La fraude hier, la participation aujourd'hui sont au fond deux signaux différents mais comparables qui témoignent de l'intérêt exceptionnel que les Corses portent à la politique.
Alors revenons au bureau de vote. Le président et les assesseurs ont eu hier une longue journée. Un coup de fatigue est vite arrivé. Leur vigilance devait rester forte à l'heure de la fermeture des bureaux, à l'instant où il faut ouvrir l'urne.
Alors l'ancien directeur de la revue Esprit, Paul Thibault, m'a rappelé les aventures que le vote avait connues dans sa commune du Val-de-Marne, Vitry. L'union de la gauche y a eu du bon parce que dès lors qu'il y a eu des présidents de bureaux socialistes assez nombreux, on a pu constater que les procès-verbaux qu'ils signaient différaient sensiblement de ceux des présidents de bureaux communistes, habitués à opérer seuls. Oui, alors il faut parler du risque de bourrage d'urne. Supposez que l'urne soit renversée sans précaution, qu'on n'en extrait pas les bulletins soigneusement pour les grouper par paquets de 10, qu'on glisse ensuite dans de grandes enveloppes qui vont contenir 10 paquets. Ben, dans cette hypothèse fâcheuse, on a pu introduire des bulletins fantômes en signant devant autant de noms sur la liste des margements qu'il y a de bulletins surnuméraires. Comment disait le ministre soviétique des Affaires étrangères au temps de la guerre froide ? Vos élections libres, c'est très bien, mais on n'est jamais sûr du résultat. Enfin, si tant d'efforts ont été déployés naguère pour truquer les élections, c'est qu'elles avaient un peu d'importance, non, Bruno ?
Jean Lebrun, le vif de l'histoire.